Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, arpenteurs de merveilles et veilleurs d'art. Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'onde Faites Main en poil de yak ce jeudi 6 novembre et c'est une excellente idée. Aujourd'hui, à l'occasion de la prochaine Biennale des métiers d'art qui aura lieu au Château de Vauguyet du 8 au 11 novembre, on vous propose d'entrer dans l'univers de l'un des 28 artistes d'art invité. Ce ne sera ni Lisa Marchand-Fallot, ni Émilie Valentin, marionnettiste toutes les deux, qui sont invitées d'honneur, mais un jeune créateur, un chasseur-collecteur du sensible, qui a notamment conçu des installations artistiques olfactives, ce qui a vraiment aiguisé mon intérêt, c'est Joël Harder. Et à la technique, aujourd'hui, Sylvain, bonjour.
Bonjour.
Je dis aujourd'hui comme s'il en était autrement.
C'est exceptionnel.
Fois. Mais oui. On écoute l'interview dans un instant, bien sûr, après un point agenda. Ce soir, c'est le premier rendez-vous du Café des parents d'ados à Aubenas. Alors, face à celles et ceux qui nous paraissent parfois être des extraterrestres, comment discuter avec eux, réagir face à leur changement d'humeur, et oui, ça arrive de temps en temps, à leur silence, à leurs excès d'écran ou à leurs premières histoires d'amour, autant de questions que se posent nombre de parents et auxquelles le Café des parents d'ados propose désormais de réfléchir collectivement autour d'un espace libre de parole et d'écoute, sans jugement ni programme imposé. Tout ça animé par des professionnels de l'écoute et de la parentalité. Rendez-vous donc ce soir à 18h30 dans les locaux de l'École des parents et des éducateurs, l'EPE 07, qui est situé derrière le numéro 17 avenue Schwarzenberg, et c'est dans le quartier des Oliviers à Aubenas. Et si vous voulez plus d'infos, je vous donne un numéro de téléphone. Le 04 69 22 16 80. Du décalage, voire même du déphasage des ados par rapport à leurs parents, ou l'inverse, au décalage social des privilégiés, il n'y a qu'une cuisse que franchit Beaumarchais avec le mariage de Figaro. Et la compagnie Les Affamés a revisité ce classique de la satire sociale en 1h30, 5 comédiens, sans rien dénaturer du texte original, avec intrigue, quiproquo, rire, suspense, le tout mis en scène par Gilles Droulez. C'est une création qui date de 2021, mais qui est toujours d'actualité, au point d'être rejouée en ce moment. Et la compagnie, avant d'aller à Marseille, s'arrête ce soir à 19h30 à la salle de la Grand Fonds à Joyeuse. Et j'en profite pour faire un petit peu d'autopromo et vous parler de l'émission Le Salon Impromptu de ce dimanche midi sur Fréquence 7, avec comme invité Gilles Droulez de la compagnie Les Affamés, Caroline Drault, comédienne qui a ouvert La Blacène, le nouveau lieu dédié à l'humour et à la comédie à la Blachère, et Antoine Cognon qui a créé l'association Stand Up 07, tout ce petit monde pour parler tranquillement autour du rire, ce qui fait rire de la comédie, et notamment ici en Sud-Ardèche. Enfin, pour terminer cet agenda et introduire doucement notre sujet, étant donné que nous allons parler de l'un des artisans d'art créateurs de la prochaine Biennale des métiers d'art, qui aura lieu au Château de Vauguyet, je vous le rappelle, du 8 au 11 novembre, Joël Harder, et que cette année, les invités d'honneur sont deux marionnettistes, Lisa Marchand-Fallot et Émilie Valentin, place donc à la marionnette. Et le MET, l'espace de création dédié à cet art, Auteuil, vous le savez, accueille en résidence des compagnies qui dévoilent toujours en fin de séjour leur travail de création. Et ce soir, vous pourrez découvrir gratuitement à 18h30 la nouvelle création des Lucarnes songeuses, La Petite Fadette. C'est une adaptation de George Sand qui disait d'ailleurs « Les marionnettes n'amusent que les enfants et les gens d'esprit ». Ça t'amuse, toi, Sylvain, les marionnettes ?
Oh oui.
Oui. La Petite Fadette, version théâtre d'ombre et silhouette articulée, c'est à partir de 10 ans, et c'est ce soir à 18h30 au Met du Teil, et c'est gratuit. Change the course of time. Ambiance d'extase dans les clubs avec Esexua de FK Twigs. Le choix de notre invité, puisqu'on reçoit aujourd'hui un chasseur-collecteur du sensible, un pisteur de l'éphémère, un renifleur d'ambiance qui encapsule les écarts du monde dans la matière, les travestis, et crée une nouvelle membrane du monde, ou à peu près comme si, une membrane artistique. On reçoit Joël Harder, qui est artiste plasticien, artisan du cuir et du queer, peut-être, créateur sensoriel, je sais pas. Est-ce que tu te définis, toi, Joël ? Bonjour.
Bonjour. C'est vrai que c'est un exercice qu'on me demande souvent de me définir, c'est assez difficile. Je touche autant au monde de l'art contemporain que du design régulièrement pour la commande. Et ce que je fais qui me sort définitivement de toute catégorie possible, c'est que je collabore beaucoup. Soit par co-création, par collaboration ou par commande. Donc quand j'engage des projets qui seront destinés à des centres d'art, à, on va dire à des expositions de façon générale, j'hésite pas à demander de l'aide ou d'engager quelqu'un pour finaliser un projet. Mmh. Que ce soit par l'odeur, par du design graphique, par du travail de matière, vraiment. Et ça, ben ça... Les gens ne savent pas où me mettre, et moi non plus, je ne sais pas vraiment.
Et c'est pas mal, peut-être, d'être dans cet état incertain.
En anglais, on dit « a maker », un faiseur.
Créateur.
C'est ça.
Un
créateur. Et au final, c'est pas mal.
Ok, donc on reçoit Joël Harder, créateur. Ouais. Qui a choisi cette musique ? Pourquoi ? Combien d'entendre ?
Je l'apprécie parce qu'elle... ose mélanger pas mal de genres musicaux différents. Elle a un côté très daté. Et une énergie qui me plaît. Bon, la performeuse aussi. J'aime son univers. J'aime le fait qu'elle puisse mélanger quelque chose de très pop. Quelque chose que j'ai beaucoup renié dans ma vie. Tout ce qui est pop, c'était pas bien. Et là, il y a un côté... un mélange intelligent à mes yeux, à mes oreilles.
Mmh. Ouais. Et la pop, c'était pas bien, pourquoi ? Parce que c'est cucu ?
Oui. Mmh. Oui, par snobisme, j'avais un... Clairement, par snobisme, oui. Alors qu'en fait, j'adore ça. Non, longtemps, à l'âge du lycée, dans le début des cursus artistiques, j'ai quelque chose de... Je suis attiré par tout ce qui est niche, très spécifique, dans un domaine. Et donc, dès que c'était un peu grand public, ça n'en vaut pas la peine de l'analyser ou de l'écouter, quoi. Donc, par snobisme, c'est des choses qui me restent, quoi.
Mmh. Et alors, justement, si on fait un petit... justement, si on reste dans cette période-là, simplement pour savoir... Alors, je ne sais pas si c'est peut-être pas le meilleur chemin, mais en tout cas, ça en est un. Pour savoir un peu qui tu es, toi, tu as commencé, tu as fait des études. Alors, c'est assez intéressant parce que tu es d'abord venu à la matière par les arts déco.
Mmh. Mon cursus, bon, je suis né à Aubenas, grandi à la ferme, j'ai eu des parents qui m'ont beaucoup appris à me débrouiller avec les mains, très bricoleurs, eux. Et j'ai poursuivi ça avec un lycée art appliqué, beaucoup l'approche du design, l'histoire de l'art, etc. Et ensuite, c'est dans le textile où ça a commencé vraiment. J'ai fait une année de stage... en France et en Suisse, chez des designers eux de mode, architectes d'intérieur, etc. Tapissiers. Et c'est dans le textile où je me suis épanoui par la suite à Lyon pendant 2 ans, où j'ai fait pas mal de stages, encore dans la plumasserie, des techniques de haute couture, des ateliers qui effectuent vraiment des missions, des commandes pour des maisons de haute couture, du luxe. Et c'est là où j'ai vraiment appris un peu la dextérité manuelle, la délicatesse que je n'avais pas vraiment avant en fait. Et c'est ensuite à Paris, à l'école des Arts Déco, où je l'ai continué dans un cursus de design de mode qui m'a poussé vers des choses quand même beaucoup plus artistiques et qui a ensuite combiné encore avec des études à Tokyo, une espèce de double master qui existait entre Paris et Tokyo. Et là, c'est deux approches très très différentes que j'ai eues qui m'ont quand même guidé beaucoup plus vers de l'art contemporain.
Art contemporain dans lequel tu mêles. Et c'est ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est pour ça que je t'ai demandé de venir, notamment. Alors, il y a un mot qui est un peu galvaudé, qui s'appelle multisensoriel.
Oui.
Mais là, mais j'ai l'impression que quand même, c'est pas qu'un mot décoratif, excuse-moi pour toi, et que vraiment, tu t'empares de tous les sens, qu'il y a comme une volonté de recréer de manière... Je parlais un petit peu d'ambiance, mais de recréer des traces, des empreintes... et d'en donner la sensation aux visiteurs ou je sais pas comment tu appelles. Pour pas parler peut-être trop dans la théorie, est-ce que tu peux nous expliquer notamment ton projet principal, ce qui t'a intéressé au départ, battu en cours et après c'était comment ça s'appelait?
Celui de Genève, You're Entering a Zone of Exception, je pense.
Ouais, se peupler d'ombre. À Paris.
Oui, cette exposition, oui.
Ouais.
Eh bien, je pense que c'est quelque chose qui me reste de la mode, le fait de vouloir toucher à beaucoup de sens. Ça me permet, enfin, c'est ce que je crois en tout cas, quand on intéresse le corps, quand on est dans un espace d'exposition qui en général oublie totalement le corps, on est debout dans des salles blanches, dans des lumières... clair, on peut même pas s'asseoir, et c'est souvent assez intellectuel ou visuel. Et c'est un rapport à l'art qui me dérange un peu, pour ce qu'il peut avoir d'excluant, mais aussi parce qu'il oublie totalement le corps. Donc, dans le cadre, par exemple, du projet Battu en cours, j'ai voulu parler d'une histoire. Évidemment, il y a une dimension conceptuelle, une dimension narrative, de ce lieu de drague à Saint-Privat, de sa disparition, des rencontres anonymes qui cherchent du sexe dans la forêt, et un peu de la dimension politique de la disparition de ce lieu, des actions de la mairie qui font que ça ne facilite pas les rencontres dans ces lieux. Donc on a une dimension narrative, un contexte, et moi ce qui m'intéresse c'est d'archiver ce contexte au moment où je travaille dessus. Donc ça commence, voilà, autour de... On va dire c'est 2021, la grande année, où je passe beaucoup de temps à aller sur place, observer, et donc à faire des collectes olfactives, des collectes de choses que je ramasse sur place, autant que ce soit des déchets que des végétaux, des plumes, ce qui compose un peu cet environnement. Et bon, il y a beaucoup de photos, des interviews, donc à 360 degrés. Je fais ça de façon très intuitive, c'est même pas si méthodique que ça. Mais une fois que j'ai tout ce matériel, je me pose la question, mais en fait, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça raconte de façon objective ce que j'ai collecté? Comment susciter de l'intérêt pour les visiteurs, eux? Parce que moi, j'ai vécu quelque chose, mais en fait, ça n'intéresse pas grand monde si on ne le rend pas accessible. Si j'imprime un texte colossal dans une expo, ça, personne ne va le lire. Donc c'était tout de suite comment... essayer de mettre les personnes qui vont visiter les espaces d'exposition dans la... un peu dans, entre guillemets, dans mes chaussures, on dirait en anglais, que de les mettre dans une position où je leur demande d'explorer par elles, eux-mêmes aussi, que ce soit dans le noir, avec des lampes de poche, qu'on soit vraiment comme dans une grotte, il y a des œuvres à découvrir qui réagissent à la lumière, ou alors par cette odeur qui est partout autour de nous, diffusée dans l'espace, par des sons aussi, des chants d'oiseaux spécifiques, donc c'est vraiment... essayer de donner le plus de ficelles et de cordes possibles pour que les personnes qui visitent y trouvent un intérêt et s'engagent un peu dans l'installation ou l'œuvre que je leur propose. Parce que sinon, il y a on retrouve cette passivité j'aime pas l'œuvre, et un jugement trop rapide, alors que aimer ou pas, c'est mes installations, peu importe, mais tant qu'on y trouve quelque chose qui va un peu au-delà. C'est un peu général là, mais oui.
Tu parlais d'odeur, justement. Est-ce que ça, c'est assez intéressant, tu as reproduit, enfin, tu as essayé de recréer l'odeur de ce lieu, ou alors ce que toi, tu en as perçu, donc de ce lieu de drague à Saint-Privat, c'est ça? Et tu as collaboré justement avec un nez, ou comment ça s'est passé?
Alors ça, c'est par le biais de mon école parisienne à l'époque. L'odeur est toujours quelque chose qui m'intéressait, et cette école proposait justement déjà quelques cours olfactifs d'éducation à une centaine de molécules olfactives de base. Donc une fois par semaine, les midis, on s'est réunis dans cette matériothèque, c'est une librairie de matière, et donc on éduquait nos nez aux odeurs qui existent dans la cosmétique, aux odeurs qui existent dans l'automobile, etc. Et donc là, mon intérêt grandissant a poussé pour avoir une collaboration, une première petite collaboration informelle avec une école, l'ICIPCA à Versailles, et ensuite qui a débouché par une collaboration avec l'entreprise IFF. C'est une entreprise américaine qui existe partout dans le monde, qui est spécialisée dans tout type de création d'odeurs, qu'il s'agisse de crème solaire, de dentifrice, de parfumerie, ce qu'on appelle fine fragrance, vraiment la parfumerie autant de niche que grand public, on va dire. Et donc là, j'ai collaboré avec des nez, avec Anne Flippot, Shinichiro Oba et Tanguy Gasnet. Et on a recréé l'odeur, plutôt subjectivement, mais comme une archive olfactive du sexe en forêt, dans ce bois spécifique à Saint-Privat, en Ardèche, avec les types d'essences qui nous entourent, une saison particulière. Et donc on a travaillé sur ça pendant pas mal de mois. Et donc c'est énormément de pistes qui ont été développées. En fait, quand on crée un parfum, on doit développer une histoire. Et donc c'est cette histoire qu'on essaye d'illustrer olfactivement. Donc soit on était parti au début sur la chasse, donc odeur de même un peu sanguine, un peu charnelle, avec poudre à canon. En même temps, ça c'était beaucoup de la parfumerie élégante et belle qui en est ressortie. Parce que ce que je demandais à ces parfumeuses, c'était de sortir des beaux équilibres, des choses bien équilibrées, ouais, bien balanced, well balanced, on dit en anglais. Et là, c'est, je leur demandais une odeur, quelque chose de sale, pas quelque chose pour le corps, quelque chose pour l'espace, et qui soit un peu franc, pas élégant.
Et là, tu es venu et tu as posé là
oui.
Un parfum. Est-ce que c'est ce parfum-là?
C'est ce parfum-là. Et donc je vais le sprayer sur des mouillettes, et je pense qu'on va pouvoir en parler
oui.
directement de façon...
C'est très radiophonique. Fermez les yeux. Alors évidemment, la première... Odeur de... Sur la miniature, il y a quelque chose de très herbacé, mais aussi quelque chose de très... presque comme de la mousse, il y a une odeur d'humidité.
On a travaillé sur l'automne. En termes de saisonnalité, c'est important. L'histoire que l'on a retenue, c'était Joël, petit explorateur, chasseur-cueilleur, qui observe, caché dans des buissons, à genoux, avec la terre et, et les traces de l'herbe sur le genou, sur le jean. Ce côté, en fait, très proche du sol. Qui observe ce lieu, et en fait, au niveau de la composition, au niveau de la recette, on a différentes molécules qui agissent, qui sont plus volatiles et d'autres plus lourdes, donc qui arriveront plus vite au nez ou dans l'espace, à nos récepteurs. Et donc, on voulait avoir comme une histoire de... on rentre dans le bois, on est comme un dragueur, on est comme quelqu'un qui est à la recherche, qui est en quête. Et donc on a odeur d'humus, on a pas mal de champignons, on a pas mal de mousse, d'humidité très fort, donc travail herbacé. Et c'est après un moment qu'on divague dans ces bois, qu'on explore, qu'on tombe sur quelqu'un, et là a lieu la relation charnelle. Et donc on a plus des odeurs de fluide corporel, qui arrive, mais ça c'est même dans la temporalité du parfum, on va attendre quelques minutes de tomber sur quelqu'un et là les odeurs, la sueur va arriver.
Mais c'est vraiment ça. C'est d'abord, c'est assez saisissant comme expérience. D'abord des odeurs vraiment d'humidité, de mousse, je disais un peu herbacées de terre. Et ensuite seulement, voilà, une autre odeur alors qui est plus difficile à caractériser pour moi. C'est peut-être parce que j'ai moins l'habitude de fluide dans les bois. C'est pas. Merci de soulever quelques lacunes.
Oui, mais il y a définitivement la... Moi, j'arrive en quelque chose de musqué, épicé, sueur.
Ouais, t'as raison. Et vraiment, ouais.
Mélange à du même... champignon sec, du cèpe en poudre.
Ouais, quelque chose de très fort.
Oui. Et dans l'exposition, en fait, c'est surtout cette note-là que l'on a. Évidemment, on a moins le côté herbacé parce qu'on diffuse cette odeur sur des surfaces textiles dans l'exposition. Donc, soit dans le cas de, par exemple, Se peupler d'ombre à Paris, c'était comme une grande, il y avait comme une grande tenture de plusieurs mètres qui faisait un couloir noir derrière et un couloir dans la lumière. Et du coup, il y avait différentes œuvres qui étaient soit dans le noir, soit dans la lumière. Et du coup, ce textile était sprayé. Ou alors dans d'autres installations de Bâtiencourt, c'est sur une tente faite avec un motif qu'on retrouve tout au long de mon travail. Et cette tente-là, elle est sprayée avec l'odeur quotidiennement, plusieurs fois par jour. Donc l'odeur est vraiment présente, même dans une exposition collective, où il y a d'autres artistes et d'autres travaux présents, ben, il y a toujours cette odeur qui va grignoter un peu sur l'espace des autres.
De sexe dans les bois.
Oui. Donc là, oui. Oui.
Ça peut, mais justement, il peut y avoir des correspondances assez inattendues.
Oui, oui, c'est vrai.
Est-ce que tu continues là, donc on a parlé de ces expos, de ce travail donc, qui date, tu le disais, c'est un processus qui a commencé en 2021 à peu près, exposition encore l'année dernière, en 2024. Mmh. Est-ce que tu as commencé un autre projet
Oui.
Tu peux parler ou pas?
Il est... Je peux en parler tant que je demande pas trop conseil au début. Mais en parler sans avoir de retour, ça va. Mais c'est un projet qui va engager l'olfactif également. Mais on est... c'est un travail autour des masculinités. Comment dire, autour des conditionnements dans les masculinités plutôt gays, homo, qu'est-ce que... Il y a quand même ces schémas que l'on retrouve qui font qu'on est... Il y a une forme de... J'ai du mal à trouver les mots. Mais on va dire qu'on se ressemble tous et on va avoir des références communes et un langage commun. Ce qui n'est pas un problème, mais qu'est-ce qui mène à ça? Qu'est-ce qui mène à ça, et notamment dans la scène un peu plus qui des fétiches, par exemple, où on va avoir une éducation souvent visuelle faite par la pornographie, et donc on va avoir des stéréotypes qui vont ressortir. Et moi, je m'intéresse un peu plus à quels sont les composants, quels sont les rites de passage inconscients qui ont été faits, auxquels on a consenti la plupart du temps. Donc c'est plus... Là, c'est sous une forme d'installation où il y a plusieurs brûle-parfums, plusieurs objets olfactifs qui ont chacun une odeur. On va dire il y a une dizaine d'odeurs isolées et ensemble dans la salle vont créer un parfum, donc vraiment avec une recette, vont créer un tout. Mais en fait, c'est une installation dans laquelle les visiteurs, eux, sont invités à aller comme à des pôles, à certains passages, à certains lieux, et en fonction des décisions qu'ils prennent vis-à-vis de cet endroit-là, d'autres options vont être écartées ou leur être proposées.
C'est une exposition dont vous êtes le héros, héroïne.
Exactement.
Oui. Génial. Oui. Avec ce côté ludique, parce que oui. Immersive.
Oui, oui. Dans le noir, avec la fumée, des lasers qu'il faut éviter pour atteindre ces pôles-là.
Non, c'est pas vrai.
Si. Ah. C'est vraiment comme un... Là, je l'ai pensé vraiment comme un jeu vidéo. Ok, on a un personnage, on avance. Et ensuite, on fait quelque chose. Telle porte s'ouvre, mais les autres sont écartées.
Et est-ce qu'on aura la chance de voir cette exposition ici en Ardèche?
J'aimerais beaucoup.
C'est un appel.
C'est un appel. C'est un appel.
En tout cas, là, tu es déjà sur un lieu. C'est une commande. T'es déjà en cours.
Non. Non. Souvent, le travail dans l'art contemporain, c'est souvent on est un peu dépendant de soit d'un travail alimentaire qu'on a sur le côté, soit de quelques subventions. Et là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose. Ça prend du temps d'amasser un peu. C'est des sacrées sommes d'amasser ça. Mais je n'ai pas de lit encore, non. Mmh. À part dans mon atelier où je fais régulièrement des open studios, donc j'ouvre l'atelier aux visites.
Et ça, on peut le savoir via quoi? Via
sur mon Instagram.
D'accord, Joël Harder.
Une fois par an. Mon Instagram, c'est I am Joël Harder.
D'accord. Il faudrait presque faire toute une émission là-dessus, mais tu as soulevé un point qui est le statut de l'artiste. En gros, comment on vit quand on est artiste? Artiste, alors toi tu as aussi cette casquette dont tu as parlé un peu, enfin qui est pas, c'est d'artisanat aussi, artisanat d'art et puis de la confection, tu parlais de haute couture, je sais pas si c'est encore le cas. Mais...
Plus vraiment, non. Mais...
Comment on vit quand on est artiste?
Comment on vit, c'est une vraie question. Je dirais que la nouvelle génération des personnes un peu dans le milieu de la culture rose en parlait, ce qui me semble moins être le cas auparavant. Mais donc, il y a pas mal d'entraide entre curatrices, artistes, il y a beaucoup d'entraide. Moi, il y a des artistes qui me donnent des conseils, me disent, là, c'est le moment de candidater à ça. Donc, on cherche à s'entourer pour pas être isolé ou ne pas rater des bonnes occasions. Mais en fait, moi, ce qui me permet d'avoir un équilibre purement sur le plan financier, c'est par exemple ma pratique de design où j'ai des commandes de création d'affiches, d'identité visuelle, de direction artistique pour des entreprises ou juste des particuliers, des projets qui ont besoin de représentation visuelle. C'est ce que je propose et pour le coup assez niche, assez poussé. Et j'aime faire ça. Ça, c'est une source de revenus. Et ensuite, je travaille au château, par exemple, à Aubenas, en tant que monteur. Et en même temps, j'anime des camps, des workshops, dans la haute couture plutôt, pour Chanel, des ateliers d'introduction à des métiers d'art, donc sur Paris, des camps en Suisse où c'est autour de l'artisanat. Donc c'est des choses toujours autour de la création, mais c'est pas forcément le but premier de ce que je crée en tant qu'artiste qui est d'exposer. C'est pas forcément destiné à la vente et c'est pas ça qui me fait vivre non plus. Donc je cherche à avoir des activités annexes qui me font, qui me permettent de pouvoir travailler. C'est un équilibre.
On parlait...
Précaire, mais c'est un équilibre.
De création, il y a aussi tout un pan de création d'un travail de la matière, c'est la matière du cuir. J'en parle parce que tu parlais du château, mais là, dans un autre château, château de Vauguet, tu présenteras... Enfin, tu seras présent à la Biennale
des métiers d'art.
En présentant des pièces travaillées avec du cuir. Et j'ai lu ou entendu, je ne sais plus, dans une interview, que ce cuir, il pouvait être aussi fin qu'une feuille de papier de cigarette. Et que, parce que tu en fais des traces assez incroyables, des empreintes de végétaux, notamment.
Oui, ça, c'est un pan de mon travail. Une technique que j'ai développée entre le Japon et Paris, pour le coup, où c'est une technique un peu de fossilisation d'objets collectés sur des lieux de drague. Donc c'est souvent des végétaux. Ensuite, il y a quelques autres objets, comme des fois il y a des canettes ou des empreintes du sol. Ça, j'aime énormément faire. Et c'est ce qui sera présenté à Vauguet, pour le coup. C'est un travail, là encore, je fais appel à des artisans et des artisanes spécifique pour réaliser ce travail. Je fais la dernière étape, mais avant, il y a des personnes qui travaillent pour moi en avant.
Naguri, c'est la nostalgie du temps, c'est la nostalgie de la saison qui vient de nous quitter. Pour les Français, je pense que ce qui est le plus facile à comprendre, imaginez-vous être sur la plage le dernier jour des vacances d'été. Bon, c'est un peu loin. Vous regardez le soleil se coucher, puis vous vous rappelez de tout ce que vous avez fait pendant l'été, des bons souvenirs et le travail qui vous attend le lendemain, le métro et tout ça.
Ah non, c'est pas bon pour commencer une émission, ça.
Mais quand même, vous vous dites, ah, c'était quand même bien l'été, c'était quand même bien les vacances. Donc, vous contemplez les derniers rayons du soleil avec des sentiments de nostalgie, mais pas triste, parce que vous savez...
On vient d'entendre Ryoko Sekiguchi parler de Nagori. Je pense que c'est alors un sentiment qui habite aussi peut-être un peu ton œuvre.
Oui, oui, totalement. Son livre qui s'intitule Nagori était une très très belle découverte à mon retour du Japon. Et ça, on va dire, ça a été presque une méthodologie pour mon travail battu en cours. Où une fois que j'ai lu ce livre, j'ai compris, ah, en fait, je cherche à comme encapsuler un espace-temps, un lieu. Mais en fait, ce que Ryoko amène, c'est évidemment toute une dimension poétique là-dedans, mais qui n'exclut pas une partie sociologique. C'est un ton qui m'a beaucoup plu. Mmh. Et donc... particulièrement par rapport à son écrit, il y a une des pièces qui ornent cette installation. C'est des poèmes gustatifs qui sont ressortis, où j'ai voulu encapsuler des choses, des mémoires de ce lieu, mais qui ne sont pas destinées uniquement à la vue, comme on l'a d'habitude avec du texte, des photos, etc. Là, c'était vraiment des... Qu'est-ce que dans ce bois, qu'est-ce qu'on peut manger ou ingurgiter pour avoir comme une mémoire dans le corps de ce qu'a été ce lieu une fois ? Donc des infusions, un travail d'infusion, même d'herbe dans un spiritueux avec la distillerie Elvia. Donc c'est un travail qu'on peut boire, mais aussi sentir. On a le bouquet floral, le travail olfactif qu'on a eu tout à l'heure justement. Et du miel même, un apiculteur a accepté de poser ses ruches dans cet endroit aussi, comme pour avoir un nectar de dernier printemps de cet endroit. Et ça, c'est vraiment très clairement grâce à ce livre-là, cette découverte-là. C'est une découverte pour moi, ça existe depuis longtemps ce mot, mais, mais oui.
Nagori. En tout cas, on espère pouvoir rencontrer tes œuvres. Alors, ce sera à Vogüé, mais aussi voilà, tes installations, tes installations sensorielles. Merci beaucoup, Joël, d'être venu dans ce studio à Fréquence 7. À bientôt.
À bientôt.
Et merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, auditrices, auditeurs. Restez à l'écoute de Fréquence 7 avec comme programme pour votre journée à 15h le Telex, vos événements en Sud-Ardèche. À 17h, la rediffusion de cette onde curieuse. À 19h, éclectrique, l'indie pop selon Julien. Et à 21h, état brut, le rap conscient selon Gaëtan. Nous, on se retrouve lundi prochain pour une émission autour... des écoles alternatives avec notamment l'arrosoir du sel. Merci à tous, ciao.